RMC, After Allemagne, Jérôme Sillon.
Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à mettre une note et à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame Polo Breitner. Salut Polo.
Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde.
Et avec Mathéo, le modérateur du média Le Fußball. Salut Mathéo.
Salut Jérôme, bonjour à tous, bonjour Polo.
Merci d'être avec nous, Mathéo. On va parler d'un moment historique, puisqu'après avoir licencié Steffen Baumgart, Union Berlin a décidé de nommer sur son banc de touche Marie-Louise Etta, âgée de 34 ans. Elle était en charge des U19 du club. Marie-Louise Etta devient donc la première femme entraîneur d'un club de Bundesliga. Quel est son parcours, son profil, son intérim pourrait-il se poursuivre la saison prochaine? Pourquoi Union Berlin a décidé de changer d'entraîneur à 5 matchs de la fin de saison? Où en est le club? C'est parti pour l'After Allemagne. Alors Polo, parle-nous de cette saison d'Union qui est 11e du classement, qui est 7 points devant Sankt Pauli, mais qui a décidé quand même de changer d'entraîneur après cette défaite infamante face à Heidenheim.
Bah, pour le faire simplement, c'est un club qui n'évolue plus. Depuis 2018, on a des schémas de jeu évidemment hérités d'Urs Fischer, hein, qui est considéré comme un demi-dieu là-bas en Allemagne. Hein. Je sais que certaines personnes, certains supporters, j'en fais partie, aimeraient qu'on ait une statue d'Urs Fischer, parce qu'il a amené ce club évidemment de seconde en Bundesliga, mais surtout il l'a amené en Ligue des Champions et a même disputé les trois compétitions européennes. Et si tu veux, depuis 2018 et l'arrivée d'Urs Fischer, jusqu'à son départ, eh bien, on a eu des coachs qui étaient aussi des coachs relativement défensifs, qui subissaient un petit peu l'effectif hein, qui a été construit sur mesure par Urs Fischer et donc son héritage. Et que ce soit Jelica, que ce soit Bo Svensson, que ce soit Steffen Baumgart, bah, on se rend compte que le club n'évolue plus tactiquement. Et la saison 2025-2026 est assez pénible, malgré un nombre de points qui permettra à Union de se qualifier pour une nouvelle Bundesliga l'année prochaine, qui serait la 8e à la suite. Mais le match de ce week-end, mais à l'image de beaucoup trop de matchs qu'on a vus cette saison, on n'évolue pas et c'est pas beau et c'est trop défensif et l'équipe se bouge pas assez et on ne comprend pas spécialement le recrutement, pourquoi, etc. Donc on a une forme de logique à 5 journées de la fin de se séparer d'un Baumgart, ancien joueur du club, ancienne figure légendaire du club, mais qui finalement n'a rien apporté globalement de positif, mais à l'image en gros de tout ce qui s'est passé après Urs Fischer. Et ça, c'est un peu un vrai problème, parce que dans le monde du football, quand tu n'évolues pas, tu recules, et moi j'ai très peur de la saison prochaine avec Union Berlin.
Ouais, Union Berlin en 2026 en Bundesliga, c'est le 16e meilleur total de points, ou plutôt le 3e plus faible du coup. Seuls Wolfsburg et Heidenheim ont fait pire donc en 2026 avec seulement 11 points pris en 14 matchs. La décision de se séparer de Baumgart était justifiée pour toi, Mathéo ?
Oui, tout à fait. Hein. C'était justifié, comme l'a dit Polo. C'est une équipe qui recule depuis le départ de Urs Fischer en réalité, hein, parce que derrière, ça n'a pas été forcément plus brillant avec, notamment, je repense à Nenad Bjelica. C'est une équipe qui est trop prévisible sur le terrain, qui court beaucoup moins. À l'époque de Urs Fischer, on avait l'habitude d'une équipe avec un énorme volume de jeu, qui il y avait ce fameux slogan « Alles geben, tout donner ». On avait vraiment ce sentiment-là, en tout cas quand on voyait l'Union de Berlin. Et puis avec un recrutement aussi intelligent, parce que Polo parlait de recrutement, on avait un recrutement intelligent avec des joueurs qui arrivaient de deuxième ou troisième division et qui partent de ce fait ensuite quand ils arrivaient en Bundesliga. Ils donnaient tout parce que c'était un petit peu la chance de leur vie. Je repense à Kevin Behrens notamment. Et depuis, on a eu quoi ? Depuis, on a eu des joueurs comme Kevin Folland. Ça a été un flop. On a eu des joueurs comme Robin Gosens. Ça a été un flop également. Et puis le recrutement de cette année. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais ça reste surtout individuel. Et globalement, ça n'a pas pris. Et effectivement... J'ai très très peur également, parce que ça fait quand même deux ou trois saisons maintenant que Union flirte avec le bas de tableau. Donc j'ai très très peur que la saison prochaine soit la dernière s'il n'y a pas un vrai coup de fouet.
Alors, le coup de fouet peut-être incarné donc par Marie-Louise Etta, donc qui a été nommée à la place de Steffen Baumgart. Elle entraînait les moins de 19 ans du club. Est-ce que cette nomination t'a surpris, toi, Polo, le fait que Horst Held, le directeur du football, ait choisi Marie-Louise Etta pour eh bien, réaliser cet intérim sur les 5 derniers matchs de cette saison?
Alors, déjà, on va poser la question, est-ce que c'est vraiment Horst Held qui a choisi Marie-Louise Etta ou est-ce qu'il y a eu intervention du président Zingler qui apparemment a poussé pour que ce soit Marie-Louise qui soit nommée. Le fait que Union ait quasiment sauvé cette saison et le fait qu'on soit à 5 journées de la fin n'est pas si important que ça sur la nomination d'une femme. C'est-à-dire que si on pouvait le faire, on peut le faire maintenant. Ce n'est pas la même chose que si on était à un ou deux points des barragistes, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de communication. Maintenant, cette nomination d'une femme, et c'est ce qui est très intéressant, ce n'est pas le fait que ce soit une femme qui soit nommée, c'est comment les médias allemands et la société allemande vont regarder une femme sur le terrain et vont traiter l'information. C'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, elle est logique. Elle est logique par rapport au parcours de Marie-Louise. Comme tu l'as dit, elle s'occupait des U19. Elle a une réputation, et là, je fais le lien avec la première partie qu'on vient de dire, d'être un coach qui est extrêmement offensif. Donc, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle façon de jouer si elle reste l'année prochaine. Et ça, c'est encore une fois une autre question. Et donc, eh ben, en gros, elle a un mois, là, pour faire ses preuves, pour montrer qu'elle maîtrise tout. Tout le monde dit qu'elle a les compétences, ça c'est pas problématique, sauf qu'on le sait que dans le football, le vrai problème, c'est que t'as toujours besoin de résultats. Donc si elle assure un maintien tranquillement, pourquoi pas continuer avec elle l'année prochaine? Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un, comment la société allemande réagit à la nomination pour la première fois en Bundesliga, et non pas dans le monde professionnel allemand, en Bundesliga d'une femme, et surtout, comment les médias vont traiter l'information, avec bienveillance ou pas, qu'est-ce qui va se passer quand Union va se prendre un 5-0, par exemple, à Dortmund ou à Leverkusen, qu'est-ce qui va se passer quand elle va complètement se planter? Donc la nomination, pour moi, elle est intéressante parce que la temporalité permettait de faire un essai. Maintenant, ça n'empêche pas Horst Held d'avoir déjà appris son numéro de téléphone pour préparer l'année de saison avec d'autres coachs. Donc ça, c'est tout ça, c'est un petit peu... il ne faut pas embellir la situation et ne pas l'embellir. Moi, je me fiche éperdument que ce soit une femme qui soit nommée. Évidemment, c'est très important d'un point de vue sociétal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque j'ai appris qu'elle c'était une joueuse très, très offensive, enfin, un coach très offensif, c'est ça qui m'intéresse parce que le problème de l'Union post-Urs Fischer, c'est qu'on n'évolue pas dans le jeu. C'est un des jeux les plus moches de Bundesliga cette saison et ça se trouve, c'est le jeu le plus moche. Donc, c'est ça, moi, qui m'embête.
On parlera tout à l'heure des autres noms avancés dans la presse allemande pour s'asseoir sur le banc l'année prochaine d'Union Berlin. Mais d'abord, restons sur, avant de revenir sur son parcours d'entraîneuse à Marie-Louise Etta. Matteo, toi, comment tu perçois cette nomination? Comme l'a dit Polo, d'un point de vue sociétal, le retentissement a été mondial.
Oui, ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout en France, on en a beaucoup parlé également. Alors, c'est très bien, effectivement, d'un point de vue sociétal. Après, la réalité se fera évidemment, entre guillemets, sur le terrain. Le calendrier de l'Union, est très compliqué. Avec, la prochaine journée, ça devrait être le vrai test contre Wolfsburg. C'est là où vraiment on pourra juger Marie-Louise Etta. Et encore, c'est vraiment tôt d'un autre côté. Mais quand Polo parlait de 5-0 à Dortmund et tout, il faut pas oublier aussi ce match à Leipzig le 24 avril prochain. Et là, à mon avis, le 5-0, il va arriver beaucoup plus tôt que prévu, parce que à l'heure actuelle, moi, je vois pas photo entre Leipzig et Union Berlin, que ce soit le Union de Baumgart ou que ce soit le Union de Marie-Louise Etta. Après, on verra. Mais voilà, non, en tout cas, c'est très, très bien. Effectivement, on avait l'habitude avec aussi Sabrina Wittmann en Dritte Liga, en 3e division, avec le FC Ingolstadt. Les médias gèrent la coach comme n'importe quel autre coach, hein, au final. Pour moi, il n'y aura pas de problème au niveau médiatique. Par contre, j'ai très peur effectivement, s'il y a une grosse défaite à Leipzig, des commentaires sur les réseaux, comme on a pu en voir aussi, etc. Donc, c'est plus de ce côté-là. Mais au niveau médiatique, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de changement dans le traitement de Marie-Louise Etta.
Polo, quelle a été.
Jérôme,
Ouais,
attends,
vas-y,
excuse-moi,
vas-y, je t'en prie.
je rajoute quelque chose qui est très important, ce qu'a dit Matteo, c'est le traitement médiatique sur Sabrina Wittmann, donc qui est le coach de la troisième division à Ingolstadt. Rappelons que la troisième division allemande est professionnelle, donc ce n'est pas la première fois qu'on a une femme qui prend une équipe professionnelle en Allemagne, c'est juste que c'est la première fois qu'on est dans l'élite allemande. Et ce qui est intéressant, c'est que le début de saison de Sabrina Wittmann à Ingolstadt était assez dramatique, à tel point qu'elle était à deux doigts de se faire éjecter et elle a redressé la barre avec son équipe au point d'être prolongée et d'être peut-être, si elle va à la fin de son prochain de son actuel contrat, de devenir le coach qui sera resté le plus longtemps dans l'histoire de FC Ingolstadt. Donc c'est très intéressant parce que il faut toujours faire attention dans un premier temps de juger la performance du coach et ce que ça représente sociétalement. Imagine que ça se passe très bien avec Marc-Louis Zeta et qu'il reste 10 ans. Ben, ou imagine qu'il y ait plus de soucis et qu'il reste quand même. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont se poser, il va falloir faire très attention et la grosse différence entre la bienveillance liée au fait qu'on fait avancer la société avec la nomination d'une femme, mais aussi que le football professionnel est une jungle impitoyable et que si tu n'as pas de résultat, ben, tu dois théoriquement sauter. Et si elle ne saute pas, par exemple, c'est pas ce que je lui souhaite évidemment, c'est qu'il y aura d'autres critères qui vont rentrer en jeu et ça va fausser le jeu et les médias vont commencer à s'en Paris, etc. Donc, il va falloir être extrêmement prudent sur la façon dont les médias traitent le cas Marie-Louise Etta.
Alors justement, quel a été le retentissement de sa nomination en Allemagne, Polo? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, est-ce que ça a été une déflagration? Est-ce que tout le monde en a parlé, y compris dans les médias généralistes? Ou est-ce que ça c'est vraiment resté concentré sur les médias qui traitent de l'actualité footballistique?
Non, tout le monde en a parlé de toute façon parce qu'il n'y a pas l'équivalent de l'équipe en Allemagne. Et donc toute la presse généraliste, la presse régionale récupère ça et en parle et voici, etc., etc. Donc ça a été très très important ce qui s'est passé, que tout le monde au début a dit que c'était logique, qu'il y a eu des interviews un petit peu partout, y compris là je viens dans l'Irune en Suisse, qui est paru dans le journal Blick il y a quelques heures, mais ce qui est important c'est qu'on est dans un processus long. On a parlé de Sabrina Wittmann, mais moi je rappelle que au début 2026, on a quand même à Leipzig aujourd'hui, le boss de Leipzig, c'est une femme. C'est Tatjana Eni, ancienne internationale suisse, qui a bossé pour la FIFA notamment et qui aujourd'hui prend le rôle. Le problème, c'est qu'elle ne fait jamais d'interview. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu passer. Donc, je ne sais pas quelle est sa politique. Donc, peut-être qu'elle est en train d'étudier les dossiers en profondeur. Donc, ça, moi, je ne connais pas ça spécialement en France, par exemple. Et donc, on a vraiment une femme. On peut penser à la directrice financière et comptable de Schalke 04, qui est quand même, elle, la responsable de la restructuration financière qu'il y a au club. Donc, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce phénomène de féminisation du football professionnel allemand, il est en marche depuis quelques années, à des postes très importants. La responsable de la com, du non pas du, d'Union Berlin, mais de l'équipe professionnelle, c'est une femme aussi à Union Berlin. Donc, tout ça fait que ça fait avancer dans la société. Ensuite, comment on en parle? Ça, on en parle d'une façon extrêmement bienveillante pour le moment. Ce week-end, par exemple, Doppelpass avec Effenberg, lui qui pourtant qui n'est à ma connaissance, d'après je me rappelle ses déclarations, ne sautait pas de joie dès qu'il y avait une femme qui rentrait dans le monde du football, a dit que c'est très bien, regardons ses compétences, etc., etc. Et puis il y a la réaction de la société allemande, donc les supporters de base, etc. Et sur les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus compliqué, même si je ne sais pas s'il faut prendre les réseaux sociaux comme modèle aujourd'hui de la pensée d'une société. De la société allemande, mais il y a beaucoup de messages positifs parce que, évidemment, ça fait avancer une cause, et puis, évidemment, il y a à peu près 20% de messages qui sont carrément sexistes, complètement délirants, où les gens sont en train de dire, par exemple, c'est quelque chose, ça a l'air de rien comme ça, mais dire, ouais, de toute façon, si elle maintient l'Union de Berlin, on dira que c'est la haine, et si elle ne réussit pas à maintenir l'Union en Bundesliga, ce sera forcément à la faute des autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours le problème de la compétence derrière qui va arriver. Or, Madame Etta, je suis désolé, son parcours professionnel en tant que coach, parce qu'elle a eu, elle voulait devenir professionnelle, enfin elle était professionnelle lorsqu'elle était joueuse, mais comme Nagelsmann, comme Thomas Tuchel, ce sont des personnes qui ont eu des graves blessures à la fin de l'adolescence et à 18 ans, et donc ils n'ont pas pu exercer la profession de joueuse professionnelle, et donc ils se sont rabattus, entre guillemets, dans l'entraînement. Donc voilà.
On va revenir sur son parcours et parler de sa façon de voir le métier d'entraîneur dans un instant. Mais d'abord, Matteo, peut-être un petit mot sur la communauté des supporters d'Union. Comment elle a accueilli ce choix de la nomination de Marie-Louise Etta?
Ah, ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers parce que c'était la coach des U19. Elle monte, on lui donne sa chance. Et encore ce côté-là, c'est la première femme qui va diriger en Bundesliga. Donc, la communauté Union était très fière, ça c'est sûr.
Polo, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est précurseur par rapport à la place de la femme dans le football professionnel qui est très masculin? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans les autres pays d'Europe?
Oui, globalement, oui. Je n'ai pas envie de dire au même titre que la Première Ligue, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même, mais pas à ce niveau-là en Première Ligue par rapport à l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut... Le problème, Jérôme, c'est qu'il faut faire... Moi, je me fais toujours une différence aujourd'hui quand je vois le microcosme du foot professionnel avec l'argent qu'il y a. Est-ce que le football professionnel représente la société allemande? Je n'en suis pas spécialement sûr. C'est-à-dire que moi, je vais être très honnête, mais moi, je ne suis pas persuadé d'être le représentant des supporters de l'Union. J'en connais, mais on a chacun nos avis, etc. Moi, je suis très heureux, non pas parce que c'est une femme qui est nommée, je suis très heureux parce qu'on m'annonce que c'est une coach qui a une vision du football qui est très offensive. Et moi, quand je vois Union Berlin depuis Fischer, c'est ce que je demande. Moi, je dis, on n'évolue pas. Et donc, il y a un travail de fond à faire. Et tout ça, évidemment, fait que devra être jugée par les résultats. Il faudra faire attention à ne pas être bienveillant. Moi, le premier, je vais être bienveillant avec elle, déjà parce qu'elle a 34 ans, elle pourrait être ma fille, tu vois. Donc, je vais regarder ce qu'elle fait, etc. Mais je n'ai aucun... Je ne sais pas comment ça se passe. Ça va se passer dans le vestiaire entre des trentenaires qui sont en fin de carrière, qui sont là depuis 10 ans, je pense à Rani Khedira ou des joueurs comme ça, et puis la nouvelle coach, même s'ils se connaissent de tous les jours. Et ça, ce qui est important aussi, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été nommée? C'est qu'elle fait partie de l'équipe Union Berlin depuis plusieurs années. Et donc, ce n'est pas juste une nomination d'une femme, c'est qu'elle fait partie de l'équipe. Et donc, c'était son tour. Et moi, je trouve ça tout à fait bien, ce que la communication d'Union Berlin, mais il ne faut pas que cette nomination devienne que de la communication, parce que ça va desservir le combat, de mon point de vue.
Et n'oublions pas qu'en France, par exemple, Elena Costa ou Corinne Diacre s'étaient assises sur le banc d'un club de Ligue 1. C'était Clermont à l'époque. Donc ces deux femmes s'étaient succédées sur le banc, notamment du Clermont Foot. Dans un instant, on revient, on continue à parler de la nomination de Marie-Louise Etta et de la fin de saison d'Union Berlin dans l'After Allemagne. À tout de suite. De retour dans l'After Allemagne, toujours avec Polo Breitner et avec Matteo du Média Le Fußball. On parle de ce choix historique d'Union Berlin de nommer sur son banc de touche Marie-Louise Etta. Alors tu le disais, Polo, elle fait partie de la famille Union puisqu'elle entraînait les U19 donc d'Union Berlin, club qu'elle a rejoint en 2023. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle est au club. Alors elle avait déjà d'ailleurs fait un petit intérim, c'est ça, hein, pour pallier la suspension de Bielitsa. Donc c'est pas non plus complètement une nouveauté, on le rappelle, hein.
Exactement, ça fait partie de l'expérience un petit peu à acquérir en Bundesliga. Le coach principal n'est pas là et c'est elle qui avait fait les conférences de presse. Ça s'était très très bien passé.
Janvier 2024, hein, c'est ça.
Exactement, donc elle connaît tout ça en fait. C'est ça moi qui m'intéresse, si tu veux. La promotion, elle est logique. C'est-à-dire, c'est encore une fois, évidemment, on va regarder ça sous le prisme du fait que c'est une femme aussi, parce que la tendance au socialisme est très présente en Europe en ce moment. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'organigramme d'Union Berlin est bien en place. Et donc, comme Nagelsmann s'occupait des jeunes à Hoffenheim avant de prendre l'équipe première, eh ben, Marie-Louise Etta s'occupait des 19 avant de prendre la direction de l'équipe première. Donc, ce n'est pas la même pression. Et tout ça est logique. Donc, est-ce que ça aurait dû être elle? Est-ce que ça aurait dû être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était l'assistant de Baumgart qui aurait dû, numéro 1, qui aurait dû le prendre? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Mais pour moi, la nomination, elle est logique. Ensuite, encore une fois, c'est tout ce qui va se passer dans le monde du football. Est-ce qu'il va y avoir trop de bienveillance? Qu'est-ce qui se passe quand il ne va pas y avoir de résultats, etc., etc.
Elle a été joueuse professionnelle, donc elle a arrêté à l'âge de 26 ans, ancienne capitaine du Werder Bremen. Elle a été entraîneur adjointe également de l'équipe d'Allemagne chez les filles. Qu'est-ce qu'on dit, Matteo, de sa philosophie de jeu à Marie-Louise Etta? Qu'est-ce qu'elle compte mettre en place?
Alors ça, c'est une très bonne question. Pour le moment, comme l'a dit Polo, c'est une entraîneuse qui est vraiment portée sur l'attaque. Avec l'effectif actuel de l'Union, il n'y a pas d'autre choix que de passer par les côtés. Donc je pense qu'on va rester dans la continuité peut-être, en tout cas, de la tactique Urs Fischer et puis Baumgart, mais peut-être avec un peu plus de prise de risque, peut-être un peu plus de ballon dans la surface également, peut-être un peu plus de lignes cassées. Mais concrètement, pour les derniers matchs, je ne pense pas qu'elle va inventer quelque chose de très nouveau. En tout cas, voilà, je pense qu'avec l'effectif qu'elle a, avec les joueurs, voilà, je pense à Trimmel qu'il faut absolument mettre, faire jouer, en tout cas sur cette fin de saison. On ne sait jamais, c'est peut-être sa dernière saison avec Union. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça va être vraiment très offensif, mais encore une fois, avec le système de trois défenseurs centraux ou deux, peut-être avec un 3 au milieu de terrain, et puis surtout deux latéraux qui vont faire les essuie-glaces.
Est-ce qu'on c'est ça. On en sait un petit peu plus, oui. Vas-y.
Ouais, chez le U19, elle était dans une défense à 4. Donc c'est intéressant de savoir quelle est sa palette tactique. Est-ce qu'elle est capable? Moi, je ne vois pas aujourd'hui un coach arriver à Union Berlin et passer d'une défense à 3 à une défense à 4 et tout marche d'un seul coup. Parce que le vrai problème, à la rigueur, d'Union Berlin, ce ne sont pas les coachs. Même s'il y a des profils évidemment qu'on choisit, c'est qu'on a un effectif qui est quand même là depuis belle lurette maintenant pour certains joueurs et qui ne joue que d'une certaine façon. Le cas de Rani Khedira, donc le frère de Sami Khedira, est exceptionnel. C'est un des meilleurs 6 d'Allemagne dans le système d'Urs Fischer à l'époque, son 3-3-2-2. Et le gars, il ne sait faire que ça. Il est devant la défense, devant les. C'est quasiment un quatrième central en train de se balader devant la défense centrale. Et donc, il ne sait faire que ça. Donc, changer tactiquement, ça veut dire que est-ce que les joueurs qui sont là devront encore être là l'année prochaine? Je n'en sais rien. Comment on va faire ça, on verra ça ce week-end, évidemment. Mais en tout cas, chez les 19, c'était plus une défense à 4.
C'est qui quels sont les joueurs, là, par exemple, cette saison, dans cet effectif d'Union Berlin, sur lesquels vous pensez tous les deux, Polo, Matteo, sur lesquels Marie-Louise Etta doit s'appuyer? Quel joueur elle doit mettre en avant pour réussir à avoir de meilleurs résultats d'ici la fin de la saison, Polo?
Alors, pour moi, j'ai jamais compris, ça a bien fonctionné pendant un moment, c'était l'association du jeune Hansa qui débarquait de Paderborn en deuxième division et de l'associer avec Illich, qui est l'ancien Lillois, qui lui a une spécificité, c'est qu'il marque très peu de buts, mais il fait beaucoup de passes, alors que l'année dernière, lorsqu'il était arrivé, il faisait beaucoup de buts et il ne mettait aucune passe. Donc, je sais pas trop, je pense que ces deux joueurs-là, on peut les associer ensemble. Le vrai problème d'Union Berlin, c'est qu'il y a un problème technique qui est très important, il manque un véritable numéro 10. Jung, j'ai jamais été un grand fan de lui, et encore une fois, dans la tradition du Union Berlin, on a beaucoup de 6 ou de numéro 8, comme Kemlein, comme évidemment Khedira, comme Schaefer, etc., comme Aberer, qu'on balance parfois en rôle de piston, mais au départ, c'est un véritable numéro 8. Et donc, c'est un peu tous les mêmes profils. Alors, il y en a qui sont plus grands que les autres, etc., ça peut être plus important sur corner ou pas, mais honnêtement, la force d'Union Berlin a toujours été, depuis Urs Fischer, la défense centrale. C'est-à-dire, il y a Coirfeld, l'international autrichien, qui pourrait partir à la Coupe du Monde. Il y a Leite, évidemment, le portugais qui est en fin de contrat. Et il y a Dwecki en défense centrale. Donc, le néerlandais qui, eux, ont explosé. Mais si tu veux, quand tu vois l'effectif, moi, je me dis, donne-moi cet effectif-là, mais trouve-moi un 10 très rapidement cet été. Donc là, je ne vois pas trop, à part jouer un 4-4-2 un peu à l'ancienne, mais je n'ai même pas forcément les ailiers pour le faire, pour centrer. Ou alors, je vais prendre des gars comme Trimmel pour essayer de jouer ailier au dernier moment. Mais il y a un problème, encore une fois. C'est vraiment un schéma de jeu. Et c'est presque schématique, avec des joueurs spécifiques pour jouer comme ça. Et on n'a pas vraiment de variabilité et de variation possible. Donc ça va être, je pense, très compliqué pour Marie-Louise Etta de trouver son bon 11. En tout cas, elle ne peut pas faire de révolution comme ça.
Matteo, il vaut quoi cet effectif d'Union Berlin?
Sur le papier, il est quand même assez bon, l'effectif de l'Union Berlin. Et je suis complètement d'accord. Tout à l'heure, on parlait justement que chez les U19, elle mettait une défense à 4. Ici, je ne sais pas comment elle peut faire une défense à 4. Parce que, comme l'a dit Polo, il faut faire jouer Dwecki, il faut faire jouer Leite, il faut faire jouer Coirfeld, parce qu'il y a la Coupe du Monde, parce que ce sont des joueurs aussi, je pense à Dwecki, qu'il faudra essayer à un moment donné de vendre. Alors je regarde juste, si je ne me trompe pas, s'il n'est pas en fin de contrat.
Il est en fin de contrat, c'est un vrai problème.
Il est en fin de contrat.
Leite et Dwecki sont en fin de contrat.
Ok, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut les faire jouer, et puis surtout, sur les côtés gauches, quand on parle d'ailier, de piston et tout ça, par exemple, Derrick Kuhn, Tom Roteux, je le vois un peu plus défensif encore. Mais Derrick Kuhn, je ne le vois pas rester que derrière. Tom Roteux, on n'a pas l'habitude de le voir jouer que derrière aussi, mais je pense qu'il est capable de le faire. Je crois qu'à Kiel, il le faisait, si je ne me trompe pas. Juranovic, c'est pareil, je ne le vois pas rester vraiment cantonné à la défense. Donc il y a effectivement ce schéma de jeu où forcément les ailiers vont devoir aller attaquer un peu plus. De toute façon, il va falloir créer le danger, il va falloir créer des buts là sur la fin de saison. Et après, le milieu de terrain, il est très très bon. On l'a dit, Khedira, qui à Union est passé d'un joueur de Bundesliga, on va dire moyen, à un très très bon joueur de Bundesliga. Et puis ensuite, tout ce qui est Haberer, tout ce qui est Kemline, pareil, Kemline, la jeunesse du club, tout ce qui est Alex Kral, avec peut-être la possibilité lui de le vendre bientôt. Et puis en attaque, moi j'aime bien aussi Oliver Bourque. Quand il est dans ses bons jours.
Non.
Quand il est dans ses bons jours.
c'est un athlète. Il faut qu'il aille courir le 100 mètres. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout le problème. C'est tout le problème d'Union Berlin. C'est-à-dire que ils vont se replier et puis on va jouer sur Bourque, un peu comme Geraldo Becker le faisait à l'époque. Aujourd'hui à Mayence, pour qu'il marque et comme tu as dit, comme en plus il a pas de pied. Alors, c'est assez dramatique, Bourque. Non, là, c'est...
Alors, je voulais dire un dernier mot sur la nomination donc, de Marie-Louise Zeta, qui était censée, je crois, devenir cet été, je parle sous ton contrôle, Polo, entraîneur, avec un E à la fin, de l'équipe première féminine d'Union. C'était bien ça, c'était le plan qui avait été dressé avec elle. Concrètement, Polo, est-ce qu'elle pourrait, si les résultats sont au rendez-vous, rester sur le banc de l'équipe masculine? Et si elle ne reste pas, qui pourrait arriver comme numéro 1 sur le banc d'Union?
Alors, il est bien évident que si ça se passe bien sur les 5 prochaines journées, et le directeur sportif, Horst Held, l'a dit, pourquoi pas continuer avec elle l'année prochaine. D'ailleurs, il faut encore une fois se poser aussi la question du directeur sportif, parce que qui choisit les coachs jusqu'à maintenant? C'est Horst Held. Or, Baumgart s'est fait un échec, Bo Henriksson, ça a été pareil, pour quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui avait réussi à Mayence. Donc la question est là, on ne sait pas, est-ce que c'est lui qui a eu la main sur Marie-Louise Zeta, ou est-ce que c'est venu du grand patron qui dit « vous me nommez Marie-Louise ». Et moi, je pense, il y a d'ailleurs des podcasts qui ont été faits sur Kicker, à savoir que Horst Held devrait de lui-même partir cet été, parce que, en fait, c'est toute la stratégie. Il n'a pas réussi à faire évoluer le club. Horst Held, c'est un vieux de la vieille, bien connu de Bundesliga et du monde professionnel. Et donc, évidemment, le problème, c'est que dès qu'elle a été nommée, on apprend que Eschner, par exemple, l'ancien coach de Karlsruhe, a été contacté pour peut-être prendre la succession l'année prochaine. Moi, Eschner, j'adore, je le dis très, très clairement. Maintenant, encore une fois, si elle prend 10 points lors des 5 prochaines journées, la question de Marie-Louise Zeta se posera. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va lui dire « oui, mais non, tu vas prendre les femmes ». Or, aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans le foot allemand notamment, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui entraînent évidemment la section féminine, mais il y a des hommes aussi. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les femmes se viennent à entraîner les hommes. L'équipe première, qui évidemment rapporte en plus en termes de chiffre d'affaires, c'est évidemment le plus important, mais qu'on n'ait pas systématiquement les hommes qui s'occupent des femmes, mais qu'on ait aussi les femmes qui s'occupent des hommes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas prédire ce qui va se passer l'année prochaine. Je pense que le directeur sportif est en danger à Union Berlin, et peut-être qu'on aurait besoin d'une petite révolution totale au club pour repartir sur de bonnes bases.
Bon, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner, ce match entre Union Berlin et Wolfsburg. Ce sera samedi à 15h30 pour le premier match sur le banc donc de Marie-Louise Zeta, la nouvelle entraîneur du Union Berlin. Merci beaucoup Mathéo, merci Polo. L'After Allemagne est à retrouver évidemment en téléchargement sur toutes les plateformes, et on se retrouve très vite. Ciao.
RMC After Allemagne.